Philosophie du vivant par le père Philippe Saint-Joutard, le 11 mai 90.
Continuons cette analyse philosophique sur ce qu'est notre vie spirituelle. Et d'abord, la vie de la pensée. point de vue philosophique, un point de vue de cire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver l'intelligence dans le monde aujourd'hui? C'est un fait que la science, l'épistémé grecque, s'est développée dans un sens non philosophique, mais mathématique. C'est la grande victoire des mathématiques qu'on célèbre aujourd'hui. On peut dire ça. Je crois qu'il faut être très attentif à ça. C'est un problème aussi bien critique que de philosophie du vivant, vous voyez. On va y répondre différemment, philosophie du vivant et en critique. Mais c'est un fait qu'on doit constater qu'il y a eu un tournant dans le développement de la vie intellectuelle. Ce tournant était-il nécessaire? Ou est-ce qu'il a dépendu d'une volonté humaine? Ça, c'est la critique qui doit répondre. La philosophie du vivant constate que toutes les sciences dites modernes donnent au mot scientifique une signification différente. Ce n'est plus l'épistémé grec. C'est équivoque. C'est en dépendance de la science, des sciences mathématiques. Et dans les sciences mathématiques, il y a un développement d'application de la science mathématique qui fait que ce ne sont plus le contenu mathématique, mais la formalisation mathématique. Et une formalisation ultime dans la logique mathématique. Et c'est intéressant de voir l'éclosion de la logique mathématique et de voir ce que les mathématiciens peuvent dire. Il y a toute une branche des mathématiciens qui sont contre et une branche de mathématiciens qui sont pour. Le livre de Meyerson dit ça admirablement, Cheminement de la pensée scientifique. C'est très bien vu ça. Et c'est intéressant de le constater. Alors, que fait le philosophe de la vie intellectuelle? Il cherche à comprendre l'unité. À travers cette très grande diversité, y a-t-il une unité? Une admiration dans cette éclosion. Une admiration qui peut impliquer aussi une crainte. Est-ce que l'intelligence portant tous ses fruits, ça ne va pas être trop lourd? Et l'intelligence comme telle ne va pas-elle s'éteindre au profit d'ordinateur, logique mathématique? C'est, je crois, à la fois l'admiration et l'angoisse. Et on doit se poser, non seulement au plan critique, mais au point de vue de la vie de l'intelligence. Alors, je me pose la question, quelle est l'unité que je peux voir à travers tout ce développement? Me poser la question, d'où vient ce développement? Qu'est-ce que c'est que ce développement? Y a-t-il véritable une unité qui fait que ce développement relève d'une seule dynamis, d'une seule puissance? Ou de fait, il y a diverses puissances vitales? Mais c'est un très gros problème, ça, et très intéressant. Au plan philosophique, qu'Aristote ne pouvait pas se poser. Pour Aristote, c'était très simple. Dans le dénouement, je constate deux développements intellectuels différents, mais qui tous les deux relèvent d'une même dynamis. Deux développements, la connaissance de ce qu'est la réalité et la connaissance du jugement. Thank you. ça avec beaucoup de simplicité qui montre la différence entre l'intelligence et l'imaginaire. Le souci d'Aristote, c'est de démontrer que la fantasia, l'imaginaire, l'imagination, est distincte du développement d'intelligence. Et que le développement d'intelligence a deux orientations. Une orientation qui est plus dans l'ordre critique du discernement. Non, disons pas critique, du discernement. Krinein, en grec, juger. Et le développement rationnel. Ça, c'est le souci d'Aristote au point de vue philosophie du vivant. Je crois que nous devons maintenir ce premier discernement. Tout le développement des sciences telles que nous constatons aujourd'hui, c'est un développement qui est au-delà de l'imaginaire. La science est irréductible à l'imaginaire. Et qu'est-ce qui fait le côté irréductible de la science par rapport à l'imaginaire? C'est que la science cherche toujours une objectivité. Alors que l'imaginaire est proprement subjectif. L'imaginaire demeure dans le concret, dans la représentation. Je crois que c'est ça qui caractérise l'imaginaire. Je m'imagine, je me représente. Tandis que la science cherche la signification et elle se situe toujours au niveau de l'universel. L'objectivité scientifique est une objectivité universelle qui s'impose. Tandis qu'il n'y a pas d'objectivité au niveau de l'imagination. L'objectivité peut exister, mais elle n'est pas première. C'est pas la première question que je me pose au point de vue de l'imagination. Quand je me représente quelque chose, je ne dis pas, est-ce que c'est objectif? Je me représente quelque chose. C'est intéressant. C'est tout. Tandis que du côté du développement scientifique, c'est toujours le point de vue de l'objectivité qui est première. Une objectivité scientifique. Une objectivité universelle. Une objectivité qui tend à saisir quelque chose de nécessaire. Il faut saisir en premier lieu les caractères du développement imaginatif et du développement intellectuel. Et dans le développement intellectuel, je vois que le développement intellectuel s'est énormément développé du côté du raisonnement, du côté logique, du côté scientifique. Grave question que je laisserai du côté critique. Peut-on, au point de vue scientifique, distinguer le développement de la science avec le point de vue de sa méthode? Distinguer l'aspect logique et l'aspect scientifique? Ce sont des questions que la philosophie du vivant doit se poser et que je ne pourrais résoudre qu'en critique. Mais en philosophie du vivant, je me pose simplement ces questions-là. Le développement de la science se fait de telle manière que j'ai l'impression que l'aspect méthodologique devient extrêmement important et s'identifie presque avec le développement de la science. Parce que c'est l'objectivité du savant. Il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant sur lequel on reviendra après. Mais je pose le problème. Je pose le problème de ce développement qui se fait un développement rationnel, ce qu'on appelle le développement rationnel. L'intelligence apparaît avant tout comme un développement rationnel. Et dans le développement rationnel, c'est un développement méthodologique, nécessaire, qui s'impose. En plus de ce développement, il y aura toujours quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus profond, qui sera le développement du jugement, discernement, de l'intelligence qui juge. Et dans ce développement de l'intelligence qui juge, si je veux aller jusqu'au bout, je rejoindrai alors la vitalité de l'intelligence qui est capable d'être face à la réalité. Étant capable d'être face à la réalité, l'intelligence peut discerner ce qui est conforme à cette réalité et ce qui n'est pas conforme à cette réalité. Et là, j'aurai tout le développement philosophique. Le développement philosophique ne se fait pas par le point de vue du raisonnement en premier lieu, mais par le point de vue du discernement. L'intelligence discerne, elle est capable de discerner ce qui est conforme à la réalité, ce qui n'est pas conforme à la réalité. Elle est capable donc d'atteindre quelque chose qui est au-delà d'elle. Alors, première question qui se pose au point de vue philosophie du vivant, est-ce que cela relève de deux facultés différentes? Raisonnement, la faculté de discernement. Oui, je crois qu'on peut tous constater ça. Si vous ne le voyez pas, essayez de noter votre objection. Vous verrez que c'est très difficile. Mais il faut le faire. Si vous ne le voyez pas, si vous voyez ça, mais oui, c'est vrai, je constate. Deux développements de l'intelligence. Un développement d'extension. Un développement de pénétration. Tout de suite. Je vis intellectuellement dans l'extension, en voyant toutes ces diversités de raisonnements, de multiples raisonnements, qui cherchent le nécessaire, et un discernement de compénétration à l'égard du réel. Est-ce que ceci est conforme au réel ou ceci n'est pas conforme au réel? Est-ce que ces deux développements sont-ils analogues au développement du ceci devient ceci est nu, ceci est. Le raisonnement de l'intelligence qui est un devenir. Ceci est le point de vue du jugement. Voilà le premier problème, point de vue philosophique du vivant. Et je crois que je peux constater qu'en effet, il y a un effort d'extension et un effort de pénétration. C'est une vitalité de l'intelligence tout à fait différente. Il y a des gens qui vivent dans l'extension. Il y a des gens qui vivent dans la pénétration. Des deux côtés, c'est la vie de l'intelligence. Je ne peux pas nier. Mais d'un côté, c'est beaucoup plus. L'extension. Et donc, c'est la compénétration. Et je retrouve quelque chose du devenir et de l'être. Au niveau vital, au niveau de l'être, je distingue être et devenir, et je peux les distinguer, je ne peux pas les séparer. Au niveau vital, de ma vie de l'intelligence, de ma vie de pensée, je vois en effet deux grands développements. Un développement d'extension. Scientifique. Cette extension a d'abord été au niveau mathématique. Et ce niveau mathématique a donné naissance progressivement à un effort de compréhension. développement mathématique, le développement de toutes les sciences modernes. Ils sont du côté de l'extension. L'encore, je constate. Je ne fais pas de critique, je constate. Constatation. Alors, la grande question au plan philosophie du vivant. Il faut se poser une question. Dans la diversité, l'unité, ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que ça relève de la même puissance intellectuelle? Est-ce que ça relève du nous? Je peux parler du nous, c'est-à-dire de l'intelligence. Y a-t-il une seule puissance? Science ont le souci d'avoir une signification objective. Ça, c'est net. Qu'est-ce qui fait l'unité de toutes les sciences? Et le problème du développement de la compréhension, on retrouve la même chose. On dira, l'universel prendra des modalités différentes, c'est sûr. Mais c'est quand même toujours l'universel. Et c'est toujours le problème de la signification. Si donc, je peux retrouver ce quelque chose, chose de commun qui se trouve à travers tout le développement d'intelligence implique qu'il y a une source de ça. Puisque justement, ce n'est pas donné dans la réalité. Ah, mais ça, ce sera après de voir comment je pose d'abord ça. Et c'est le propre de la vie de l'intelligence. De pouvoir avoir cette diversité très grande en maintenant cette unité. Vous ne pourrez jamais trouver l'unité du côté de l'objet. Donc, vous serez obligé de dire, je n'ai pas d'induction. L'unité de ma vie intellectuelle se trouve du côté de ce quelque chose de commun qui est une signification unique. Il n'y a pas d'autre moyen. Cherchez. Puisque vous ne pouvez pas dire c'est l'être. C'est la métaphysique. Non. Parce que tout s'y rend. Mais justement, l'être, c'est primo catitin deus ens. Ça te m'a dit ça. Oui, mais faisons attention. Je pars de la diversité, je constate. Ensuite, je dirais, ça déjà, c'est déjà critique de dire primo catitin deltus ens. Vous voyez, c'est le résultat critique. Je ne peux pas poser la philosophie du vivant sur la critique.
Jusqu'au stade où on peut dire qu'il est nécessaire qu'il y ait une puissance.
Non, je ne dis pas qu'il est nécessaire qu'il existe une puissance. Je constate que dans la diversité, il y a l'unité. C'est suffisant pour l'induction. J'induis une faculté au-delà de l'imaginaire. Parce que l'imaginaire ne répond pas, ne peut pas expliquer le point de vue de la signification et le point de vue universel. Or ça, je constate. Tout le monde reconnaîtra ça. Voyez. Et c'est vital, ça. Oui, vous prenez du côté de l'objet. Je ne peux pas par là avoir l'unité. Je constate que ma vie intellectuelle se développe d'une façon extrêmement diverse. Il n'y a aucune unité objective. Entre les mathématiques et la philosophie, il n'y a aucune unité objective. J'arriverai jamais à réduire l'objet mathématique à l'objet philosophique. Je constate cette diversité. Elle est radicale. Et c'est pas à cause de ça que j'oppose deux facultés. Une intelligence mathématique, une intelligence philosophique. Réduisez, venez, au plan vital, le fait d'une intelligence qui pense mathématiquement et qui pense philosophiquement. Il y a quelque chose de commun. Toujours l'induction, saisir le quelque chose de commun. Alors le quelque chose de commun ici, c'est la signification universelle. C'est vital, ça. Mais c'est pas objectif, c'est vital. C'est l'âme de tout le développement de la raison. Tout le raisonnement de la science se fait par là. Signification universelle. Vous voyez ? Comme ce n'est pas dans la réalité, ce petit koinon, ce quelque chose de commun, n'est pas dans la réalité. Il n'est que dans mon intelligence, dans son développement. Donc il relève d'une même faculté. Vital. C'est moi qui le fais, ça. Oui.
Vous pouvez préciser le lien de l'imagination avec la signification universelle.
Représentation singulière.
Justement,
qu'est-ce qu'il y a? Mais non, ça ne touche pas, c'est autre chose que l'universel. C'est ce que j'ai dit. L'imaginaire demande, reste dans la représentation singulière. Tandis que la science touche une signification universelle. Voilà. Alors, en critique, je développerai ça. Et si je le constate? Simplement, je constate. Ça, je ne peux pas nier. Vous n'allez jamais dire que la science reste dans la représentation singulière. Il n'y aurait pas de science. La science touche quelque chose d'universel et une signification universelle. Le lien entre quoi? Mais il n'y a pas de lien, justement. Il n'y a pas de lien. Je ne peux pas. Allez, nous avons vu l'imaginaire avant. Et maintenant, je dis qu'il y a une nouvelle puissance. Ma vie spirituelle relève d'une nouvelle puissance. Une nouvelle puissance distincte de l'imaginaire. Je vois pas votre problème. Parce que je ne vois pas. C'est une nouvelle puissance. C'est pas la même puissance. Je distingue le domaine imaginatif du domaine intellectuel, du domaine scientifique. L'imaginaire n'explique pas la science. Et là, je touche un problème que Aristote avait déjà touché. Et je retrouve, c'est le même problème. Le domaine de l'imaginaire, le domaine du nous. Vous voyez? Donc, ne cherchez pas la continuité. Il n'y a pas de continuité. Il y a une discontinuité entre les deux. Je chercherai après, en critique, comment se fait le passage de l'un à l'autre. Ça, c'est autre chose. C'est un autre problème. Il faut d'abord distinguer. Je suis ici en philosophie du vivant. Et donc j'essaie d'induire, d'une certaine manière, une certaine induction, une faculté unique à toute cette diversité intellectuelle. Tout le domaine de la science, dans tout le domaine de la science, il y a quelque chose de commun. S'il n'y avait pas ce quelque chose de commun, je ne pourrais pas induire une seule faculté. Et ce qui m'intéresse, c'est de découvrir ce quelque chose de commun. Et ce quelque chose de commun ne peut pas être du côté objectif, puisque la diversité des sciences se prend du côté de l'objet. Oui. Donc c'est au-delà de l'objet. Et c'est quelque chose de vital. Oui. Et ce quelque chose de vital, au-delà de l'objet, je dis que c'est la signification universelle. Est-ce que vous voyez ça? Donc là, vous quittez complètement le domaine de l'imagination. Vous ne pouvez pas vous représenter l'universel. Cherchez à représenter l'universel, vous ne pouvez pas.
Est-ce que la signification universelle, on a une expérience, ou il faut expérimenter par exemple un signe comme le langage, le troisième mot ?
C'est pas le problème. Je constate la diversité des sciences. Il faut bien être très précis. En philosophie du vivant, on essaie de voir les différents domaines et les niveaux de la vie. On a vu le domaine de la vie végétative, le domaine de la vie sensible et imaginative. Et maintenant, je vois le domaine de la vie intellectuelle. Qu'est-ce qui caractérise la vie intellectuelle au point de vue de vie? Je vois ce domaine extraordinaire d'extension, ce domaine de compréhension. Tout se constater. Vous voyez? Et je me demande, y a-t-il quelque chose de commun? Je dis oui. Et ce quelque chose de commun, c'est la signification universelle. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est constatée. Mais j'ai conscience de ma vie intellectuelle. ce qui me permet de poser un niveau de vie distinct de l'imaginaire. Et c'est très précis hein, comme question. Et je dis que c'est ce développement intellectuel qui se fait du côté de l'extension, qui se fait du côté de la compréhension. Il y a quelque chose de commun dans toute cette diversité qui me permet de saisir, dont j'ai conscience, le dépassement par rapport à l'imaginaire. Donc il ne peut pas se réduire à l'imaginaire. Je ne peux pas expliquer par l'imaginaire la signification universelle. Oui. L'imaginaire peut expliquer le domaine de la représentation, le domaine d'une représentation singulière. Alors, il y a un horizon nouveau qui apparaît. Et cet horizon nouveau qui apparaît, c'est ce tikkoinot, ce quelque chose de commun de toute ma vie intellectuelle. Toute ma vie intellectuelle implique toujours cela. Même dans ma connaissance artistique, qui pourtant, elle, va impliquer une représentation singulière. Mais elle fait plus que la représentation singulière. Elle donne à cette représentation une certaine signification universelle, et ce sera la connaissance symbolique. Et donc même l'activité artistique se retrouve là. La connaissance affective aussi. La connaissance que j'ai de la vie. Et ça, il faut beaucoup y réfléchir, hein, secouer ça dans tous les sens. Et c'est important, parce qu'autrement, philosophiquement, je ne montre pas le dépassement de ma vie imaginative. Aristote souligne que c'est la chose la plus difficile et que beaucoup de philosophes ne sont pas arrivés à ça. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Des quantités de philosophes demeurent dans l'imaginaire. Des quantités d'hommes demeurent dans l'imaginaire. Saint Thomas dit « Ut in pluribus mana ad insensu ». Jugement de Saint Thomas par rapport à l'homme. « Ut in pluribus ». Alors ici nous sommes petite élite intellectuelle de l'humanité qui non manadinsansu. Notre foi nous permet de dépasser tout de suite le point de vue du sensible. Tout de suite. Donc non manadinsansu, si on est croyant. Mais le jugement, il y a le raisonnement. Il y a les deux. Je maintiens les deux. C'est commun. Il n'y a pas une faculté de raisonnement, une faculté de raisonnement et de jugement. Après, je verrai la diversité. Je vois d'abord l'unité. Parce que si je vois la diversité, je ne rejoindrai plus l'unité. Dans tout jugement, il y a quelque chose d'universel. Et en tout jugement, il y a une signification. Je suis obligé de faire ça à cause de ce très grand développement des sciences aujourd'hui. Autrement, je dirais, seul le philosophe implique le discernement. Pas du tout. Toute science implique un jugement. Toute science. Et donc, je ne peux pas isoler le jugement du raisonnement. Je les maintiens ensemble. Mais je vois que le dosage raisonnement et jugement est très différent en philosophie et en science.